CFM Cahors, soyez les bienvenus, c'est votre mag en ce lundi 22 juin. Eh bien écoutez, peut-être si je vous pose la question, est-ce que vous connaissez l'hôtel de la préfecture à Cahors? Vous allez me dire oui, bien évidemment. Mais est-ce que vous la connaissez profondément? Est-ce que vous connaissez son histoire, ce qu'elle était avant, quel endroit elle couvrait? Parce qu'il n'y a pas que ce bâtiment à l'époque. On va tout savoir grâce à l'association Mémoire Chapou qui vient de sortir un livre, Cahors, du palais épiscopal à l'hôtel de la préfecture, histoire d'un lieu mémoire de vie. Et nous en parlons avec son éditeur qui fait partie bien évidemment de l'association. Et en même temps, eh bien, c'est l'éditeur du livre et c'est Gilles Chevriot. Bienvenue, c'est le mag de Hulot. Bonjour Gilles Chevriot.
Bonjour Yannick.
Alors à chaque fois que vous venez ici, je suis très content parce que on apprend encore pas mal de choses. Voilà, avec les livres que Edico se sort, on apprend énormément de choses, surtout pour quelqu'un qui est nouveau, par exemple comme moi dans le Lot. Je suis déjà passé devant l'hôtel de la préfecture, comme beaucoup d'entre nous, à côté de la cathédrale, mais on n'imagine pas toute cette histoire qu'il y a eu en fait, en final. Quand on y pense.
Alors après avoir dit bonjour aux auditeurs, je vous rassure de suite, l'éditeur apprend aussi lorsqu'il
c'est
a, on lui confie un projet, il rencontre forcément les porteurs du projet, des liens se nouent. Bon, c'est le cas de l'association Mémoire Chapou dont je connais depuis très longtemps une bonne partie de l'équipe. Et puis on se penche aussi sur le sujet qui vous est proposé. Bien sûr, il y a un manuscrit, il y a de l'iconographie qui vous est remise et avec lesquelles on constitue ce projet d'ouvrage, puisque la phase, il faut savoir que la phase préparatoire d'un livre est la phase, on va dire, la plus importante. Après, imprimer, après, ce ne sont que des conditions techniques, des délais, de la gestion. Mais d'abord, c'est la compréhension du sujet, de savoir à qui il s'adresse et comment on va réaliser cet ouvrage pour qu'un maximum de lecteurs en profitent.
Et puis vous avez une sacrée responsabilité aussi, donc du coup vous devez d'avoir l'exactitude des informations aussi.
Oui, alors je ne vais pas, bien sûr, n'ayant peut-être pas forcément toutes les compétences, on va dire historiques, notamment pour cet ouvrage, puisque c'est de l'histoire dont il est question, je fais confiance aux porteurs de projets qui eux-mêmes d'ailleurs se sont entourés de spécialistes qui ont lu les manuscrits et qui ont validé les écrits avant de les imprimer.
Parlez-nous de l'association Mémoire Chapou. Qui sont-ils? Que veulent-ils? Que font-ils?
Alors, ils sont très visibles puisque ce sont des anciens de la préfecture qui, il y a maintenant 2 ans, ont mis en place une très belle action qui d'ailleurs est toujours présente dans le Lot sous la forme d'une exposition itinérante. C'est la fameuse exposition Louvre sur Lot qui a été inaugurée fin décembre 2019 dans les salons de la préfecture et qui avait pour objectif de témoigner de l'exposition qui a eu lieu après la guerre, des œuvres qui étaient stockés au musée du Louvre, mais qui ont été cachés de l'occupant et rapatriés discrètement dans le Lot, répartis dans certains lieux, châteaux notamment, je pense au château de Montal. Et donc là, c'était un moyen, si vous voulez, de faire, on va dire, une rétrospective sur ces œuvres qui ont été, des œuvres, les œuvres réelles n'ont pas été, elles sont au Louvre, mais on va dire sous la forme de reproductions qui ont été exposées. Un livret a été diffusé, remis aux visiteurs. Il est malheureusement aujourd'hui épuisé, mais on peut voir le contenu en téléchargement à la fois sur le site de la préfecture et sur le site de Kersinet. Il y a eu aussi une exposition et cette expo donc tourne dans les différentes principales villes du département. Voilà.
Comment vous interprétez-vous en tant qu'éditeur cette motivation de faire un livre par ces personnes de cette histoire de l'hôtel de la préfecture? On va en parler de l'histoire après, bien évidemment, mais là, je voudrais comprendre quelle est leur motivation, en fait.
Je crois que c'est un attachement à la mission qu'ils ont assurée pendant leur carrière, fiers d'avoir assuré cette mission au service de l'État.
Avec toutes les évolutions, j'imagine.
Oui, au service du peuple. Voilà, c'était, on va dire, une grande famille. On peut l'appeler comme ça, parce que, d'abord, souvent, c'était des gens, des cadurciens. On va dire qu'il y avait moins de turnover qu'aujourd'hui. Les services étaient plus humains qu'aujourd'hui, parce que bien sûr, tout change. Les services, la surface des services de l'État dans le département a diminué. Le nombre de personnels ont diminué également, mais ça, c'est le modernisme qui le veut. Les problèmes de budget...
Le numérique qui s'installe.
Et le numérique qui s'installe. Les démarches qu'on peut faire maintenant en ligne, qui autrefois nécessitaient d'aller au guichet pour s'exprimer et pour avoir satisfaction.
Ça devait grouiller alors à la préfecture.
Alors, grouiller,
parce qu'en plus, il y avait une époque, il n'y avait pas d'ordinateur, donc tout se faisait à la main, donc il fallait des mains aussi.
Alors grouiller, je ne sais pas si on peut dire grouiller, mais en tout cas, voilà, il y avait une certaine animation et voilà, se déplacer à l'hôtel de la préfecture ou dans ses annexes, hein, puisqu'il faut savoir quand même que l'hôtel de la préfecture a des annexes. Les services de l'État, différents, éducation nationale, par exemple, ont des localisations ailleurs que dans le bâtiment actuel qui est Place Chapoux. Voilà. Donc maintenant, je crois que les services de l'État se sont restructurés. Le bâtiment a été modernisé. On en parle, bien sûr, dans cet ouvrage. On le voit sur la couverture. On entre dans une nouvelle phase de la présence de cette vigie républicaine dans le Lot.
C'est ce que j'allais dire en plus. Hein, c'est que le livre, il tombe plutôt bien, puisqu'il y a eu une période de travaux qui ont commencé il y a 3 ans.
Hein, oui, c'est ça, 3 ans.
Et qui sont terminés maintenant, d'ailleurs.
Voilà, ouais. c'était M. Filippini, le précédent préfet qui est parti il n'y a pas très longtemps, qui a été remplacé par M. Prozic, que nous saluons tous les deux. Et il reste, la seule chose qui reste à terminer, ce sont les jardins. Voilà. Alors, modeste, hein, ce n'est pas des parcs, ce n'est pas ce qui était autrefois le palais épiscopal. Mais bon, il faut tout faire, tout terminer.
Il s'étale d'où à où, ce bâtiment? Parce que quand on est à côté de la cathédrale, on voit ce bâtiment en U.
Oui.
Et en fait, on est loin de s'imaginer qu'il y a encore des choses qui faisaient partie, qui ne font peut-être plus partie, mais au moins qui faisaient partie.
Oui. Par exemple, la résidence Orpea.
Ouais, faisait partie.
Le jardin qui est devant en faisait partie également.
Le jardin d'Orpea faisait
absolument
partie.
Absolument.
Et il fait toujours partie de...
Ah non, maintenant, c'est un jardin qui a été qui est géré par la ville de Cahors. Orpea, c'est une EHPAD privée, hein, une enseigne privée. Mais autrefois, l'évêque, puisque c'était son palais, le palais épiscopal, pouvait presque aller se tremper les pieds dans l'eau, puisque la route qui fait ceinture de Cahors et qui va vers Figeac, tout ça, c'était propriété de l'évêque.
Eh ben, on va en parler de son histoire dans quelques instants, si vous le permettez, Gilles Chevriot. Je rappelle que nous sommes avec vous, hein, vous êtes l'éditeur de ce livre préparé par l'association Mémoire Chapoux, Cahors, du palais épiscopal à l'hôtel de la préfecture. Et on va essayer de voir très brièvement, parce qu'il y a tellement de choses à dire. C'est voilà, malheureusement, le mag ne suffira pas et ça sera l'occasion pour vous d'aller voir, d'aller acheter ce livre et qui est vraiment bien fait et vous allez tout comprendre et c'est dans quelques instants sur CFM Cahors. Like a kid and a teddy bear, like a leaf blowing in the air, could you carry me? Could you carry me? Cause I don't know how we got so far, you and me. Almost like there's a sense between us, us. So I need to know, could you carry me back into your heart again? Could you carry me right into your distant hands? Could you carry me right back? Every time we would start a fight, we make love till the morning light. I was there for you, and you were there for me. So I don't know how we got so far, you and me. Almost like there's a sense between us, us. So
CFM.
De retour dans le MAG avec Gilles Chevriot, éditeur donc de la maison Edicos, et qui sort actuellement un livre. Il est tout chaud, il est tout... Là, il sent bon. Là, je le renifle, là, il sent encore bon l'imprimerie. Il est là, c'est le livre sur le palais épiscopal qui est devenu un peu plus tard l'hôtel de la préfecture. Alors, je rentre dans la matière comme ça, évidemment, en parlant premièrement du palais épiscopal, parce que oui... C'était un bâtiment de la religion catholique.
Oui.
Qui a été créé fabriqué par la religion.
Oui, alors très honnêtement, on ne parle pas non plus, on va dire, d'un bâtiment primitif. L'histoire commence au XIVe siècle avec ce qu'on appelle le palais initial, puisqu'il a bien sûr, comme tous les bâtiments, subi des transformations au gré des besoins de son locataire. Certains étaient plus ambitieux que d'autres. Certains utilisaient les lieux... de manière différente, il fallait montrer sa force. Lorsque l'on recevait des invités prestigieux, il fallait faire bonne figure. Il fallait inviter beaucoup de monde, donc il fallait de la place. Il fallait des richesses pour nourrir à la fois les locataires et à la fois ceux qui venaient en inviter. Et puis, bien souvent, il faut le savoir, c'est que certains invités prestigieux repartaient avec bonne nourriture, quelques objets, de la vaisselle, du décor.
Donc, ils avaient volé, fallait assurer. Qu'on leur donnait, pas qu'ils avaient voulu la vaisselle.
Non, c'était prévu lors des visites. À la fin, les dignitaires du pays qui venaient voir l'évêque repartaient avec quelques menus objets.
Donc en gros, on construisait ce bâtiment pour se la péter.
Oh, ben un peu, oui.
Un peu, ouais, carrément. Parce qu'en plus, alors, c'est pas tout le monde qui a pu voir certaines pièces qui peut rentrer, en tout cas, dans le bâtiment. Moi, j'ai jamais vu le bureau du préfet. J'ose même pas imaginer, il doit être magnifique. Mais je me souviens que quand vous avez présenté avec l'association ce livre à la souscription, il me semble que c'était en octobre, novembre,
oui, c'est ça, voilà, oui,
dernier. C'était dans une salle, mais c'est impressionnant, cette hauteur de plafond.
Oui, ben, c'est ça. D'abord, pour impressionner... il faut de la hauteur, déjà,
ah ouais.
Parce que si on se sent, on va dire, confiné dans un lieu modeste, hein, aujourd'hui, les hauteurs sous plafond, c'est 2 mètres et quelques, les pièces sont de plus en plus petites parce que ça coûte cher, mais à l'époque, on ne regardait pas la dépense, il fallait mettre du décor, il fallait peindre le plafond, il fallait mettre des objets un peu partout, et puis il y avait les modes, pareil, aujourd'hui, on n'a rien inventé, la mode, elle existe depuis la nuit des temps.
Par contre, ça doit être compliqué à chauffer aussi.
Oui, bah alors, là, d'ailleurs, les travaux de ces 3 dernières années ont été aussi l'occasion de revoir l'aspect thermique du bâtiment, de la toiture jusqu'au sous-sol.
Parce qu'à l'époque, c'était avec une cheminée dans chaque pièce, comment ça se passait?
Bien sûr, il y a eu des installations de chauffage central, mais au départ, à tout début, non, bien sûr, on ne chauffait, comme dans les châteaux, que les pièces où habitaient, où étaient des personnes. Mais à l'époque, on se satisfaisait de moins de confort.
Ouais.
On mettait un pull, voire davantage. Donc aujourd'hui, il faut être torse nu dans une maison hyper chauffée. C'est un peu incongru quand même.
Est-ce qu'on peut dire qu'à l'époque, il y avait beaucoup plus de pièces que nécessaire?
Oui, bien sûr, parce que d'abord, il y avait les appartements privés, il y avait les salons pour recevoir, et puis il y avait les pièces de travail. Et puis aussi, puisque c'était un palais épiscopal, il y avait des pièces réservées à la pratique de la religion, même si la cathédrale était à proximité. C'est d'ailleurs pour ça que le palais épiscopal est sur place, parce que l'évêque, avec la rue à traverser, voire peut-être de son balcon, pouvant participer à des célébrations.
Est-ce qu'on sait s'il y avait des endroits secrets, des portes dérobées
oui.
Est-ce qu'il y a eu des surprises comme ça? Oui, c'est vrai.
Il y en a, mais je ne vous dirai pas.
C'est dans le livre?
Allez.
Là,
attendons pour avoir les réponses.
Vous me titillez, là. À quel moment c'est devenu un bâtiment de l'État et non plus de la religion?
Eh bien oui, la Révolution est passée par là, puisque effectivement, l'histoire du livre est découpée en 3 grandes périodes. Hein, les origines avec cette partie qu'on vient d'évoquer, la période épiscopale. Après le pouvoir civil, 1789, jusqu'après la guerre, c'est-à-dire les années 45, 46, 47. Et puis aujourd'hui, c'est... 47 à nos jours, puisque le bâtiment existe encore. Donc, le pouvoir civil s'est installé d'un palais privé religieux est devenu un lieu public républicain.
Et...
avec l'installation des différents préfets. Et il y en a toute une liste qu'on trouve d'ailleurs dans l'ouvrage, avec des durées de présence plus ou moins longues ou courtes.
Alors là, j'ai envie de dire, ce n'est pas très compliqué de remémorer tous les préfets qu'il y a eu et de mettre cette liste, hein, parce que forcément, on la connaît. Mais par contre, j'imagine qu'il y a des choses que vous avez peut-être eu beaucoup de difficultés à trouver, non ?
Oui, plus on remonte dans l'histoire, plus c'est difficile d'avoir des traces écrites. Alors les photos, bien sûr, faut attendre l'invention de la pellicule et des matériels.
Il y avait des peintures peut-être, non, aussi ?
Oui, bien sûr, il y a eu des dessins. Des croquis. Parce que, on va dire que peut-être certains préfets ou des collaborateurs étaient plus, artistes ou voulaient laisser des traces. Soit dans le cadre d'un album de famille, par exemple, il y a un préfet, on a récupéré son album de famille, donc on a des photos de son épouse, de ses enfants, dans les jardins, etc. etc.
Donc des photos de collection privée.
Oui, des photos de collection privée. Il y a aussi, bien sûr, des fonds d'archives qui ont été utilisés, à la fois des archives départementales, municipales, des fonds d'archives de photographes. Je pense, bien sûr, aux deux noms Bouzeran et Nespoulous, qui sont des incontournables dans le département, parce qu'ils sont présents dans beaucoup, beaucoup d'ouvrages.
Et ils aiment le patrimoine aussi.
Et ils aiment le patrimoine, voilà, bien sûr. Ils continuent à l'entretenir, exact. À faire des photos, notamment Jean-Louis qui n'a pas perdu la main pour appuyer sur son déclencheur. Et puis Jean-Michel Rivière aussi, qui est un amateur, mais amateur éclairé, collectionneur, qui a aussi mis à disposition ses trésors pour cet ouvrage.
Qu'est-ce qui vous a marqué, vous, Gilles Chevriot, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez découvert ?
Oh oui, bien sûr.
Et qui vous a vraiment marqué quoi, par exemple ?
Forcément, moi, j'ai eu l'occasion, effectivement, d'aller à plusieurs reprises à l'hôtel de la préfecture pour des raisons professionnelles, puisque je suis dans l'Aude depuis une quarantaine d'années, donc forcément, on s'y déplace. Mais je suis toujours... moi, ce qui m'a marqué, si vous voulez, c'est le fait que ça soit beaucoup plus proche du peuple. Et ça, c'est très important. Même si on ne pénètre pas tous à la queue leu-leu dans les salons, on peut plus facilement rencontrer les personnes. On a un retour plus rapide. Il y a un vrai service. Hein. Alors après, bien sûr, l'histoire m'intéresse. Donc forcément, lorsque je découvre un document, que je vois un événement où on parle de cette période, des décors, des objets. Par exemple, un objet qui est cité et qui, moi, me parle dans cet ouvrage, c'est le vase de Sèvres qui est en bas de l'escalier d'honneur.
Sèvres qui est dans les Hauts-de-Seine.
Qui
est une belle manufacture de céramique.
Voilà. Et alors le hasard fait peut-être bien les choses. J'ai habité un temps de ma vie à Sèvres.
Moi
et j'habitais en face la manufacture, après le pont de Sèvres qui mène ensuite vers Versailles. Ouais. Et j'ai habité juste en face le portail de manufacture.
Eh bien, un point commun. Vous voyez, même moi, j'y habitais pas longtemps, mais j'y habitais un peu plus haut dans la ville. Mais bon, ça, c'est notre vie.
Voilà.
Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que dans ce bâtiment... il n'y a pas si longtemps que le public peut rentrer dedans parce que les services étaient décentralisés.
Oui, alors bien sûr, il y avait les services de Chapoux, les services de Bessières. Maintenant, il y a un service unique dans la rue, l'ex-rue de la Légion d'honneur, où effectivement, il y a marqué cité Chapoux. Et là, on est reçu au guichet et on est aiguillé, soit de faire des formalités par l'intermédiaire du matériel informatique qui est sur place, soit éventuellement en déposant des dossiers ou en rencontrant des collaborateurs spécialisés dans les différentes démarches administratives que veulent engager le peuple.
L'hôtel, c'était à l'époque, l'hôtel sacré ?
Oui.
Du pouvoir, peut-être ?
Oui, de toute façon, c'est un lieu de pouvoir. Qu'il soit religieux ou qu'il soit républicain, c'est un lieu de pouvoir. Parce que c'est de ce lieu que l'on peut scruter, toutes les activités du département, c'est-à-dire que c'est un lieu d'échange. Le préfet fait remonter à Paris, au ministère de l'Intérieur, ce qui se passe dans le département, et lui, exécute les décisions qui lui sont envoyées par Paris sur le département. Donc c'est un lieu d'entrée-sortie.
On l'a vu, hein, d'ailleurs, pendant cette période de confinement,
oui.
Je pense qu'on n'a jamais entendu autant parler des services du préfet et des
décisions du préfet. Ces déplacements, ouais. Mais c'est très bien. Ça permet de rendre les choses transparentes et on en a besoin. Tout n'est pas parfait, mais la transparence et de pouvoir établir un dialogue avec nos élus, avec nos responsables administratifs, les responsables des services de l'État, c'est une bonne chose.
Ce qui m'a marqué d'ailleurs toujours lors de cette présentation de souscription, c'est pour se rendre dans les salles. C'est quand même un sacré labyrinthe. Hein.
Et oui, parce qu'il est...
Si on ne nous avait pas guidés, je pense que je n'aurais jamais trouvé. Je serais peut-être en train de sécher là dans l'hôtel de la préfecture, vous voyez.
Alors, c'est vrai que c'est très compliqué de rendre fluide un bâtiment qui a des centaines d'années d'histoire parce qu'on ne peut pas casser. Alors, puis plus on casse, plus on... À l'intérieur, les choses quand même, le décor, le mobilier, restaient dans son jus, à part quelques aménagements, quelques petites retouches ça et là, mais ils n'ont pas voulu, on va dire, abîmer l'histoire. Parce qu'à partir du moment où vous commencez à venir avec votre boîte à outils et le marteau-piqueur, là, vous détruisez tout et on n'y retrouve pas son compte.
Ouais.
Donc, et puis, il y a un service du patrimoine qui est là aussi pour contrôler que les choses restent en l'état.
Et heureusement.
Donc, forcément, il y a des couloirs qu'il a fallu aménager, des ascenseurs, des niveaux. C'est comme ça.
On peut le trouver où, ce livre ?
Alors, il est en vente chez l'éditeur. Voilà.
Edicos.fr.
Voilà, www.edicos.fr. Sinon, à la Maison de la Presse de Cahors, chez nos amis libraires Calligramme, à l'espace culturel Leclerc, et puis petit à petit va s'installer dans les principaux points de vente, presse et livres du département, au gré des demandes et aux besoins des futurs lecteurs que nous attendons et que nombreux.
Et oui, et moi qui viens d'arriver dans le Lot, je peux vous dire qu'au fur et à mesure de ces émissions, j'arrive à voir qu'il y a un patrimoine incroyable dans ce département. Et ce livre en est effectivement l'occasion. Cahors, du palais épiscopal à l'hôtel de la préfecture, histoire d'un lieu, mémoire de vie, c'est fait par l'association Mémoire Chapoux aux éditions Edicos. Donc je répète, edicos.fr. On apprend toujours beaucoup de choses quand vous venez, Gilles Chevrillon.
C'est un grand plaisir de partager.
Moi aussi. Merci beaucoup.
Avec plaisir.
À bientôt.
Oh ben oui, puisqu'il y a un prochain livre qui arrive dans 15 jours.
Alors donc, on va se voir très rapidement, là, je le sens bien. Merci à vous d'avoir suivi ce mag. C'est la fin. Rediffusion tout à l'heure à 17h et puis à 21h30 et également disponible en podcast sur cfmradio.fr.